France Culture.
Talmudique. Les temps que nous traversons sont compliqués et les positionnements géopolitiques en mouvement permanent. Ce qui semblait acquis chancelle et les tabous tombent. On parle d'Israël aujourd'hui de manière nouvelle, inquiétante, oubliant l'histoire, ses causalités et sa complexité. Il est bon alors de se souvenir du passé pour comprendre certaines fondations et projets qui éclairent non seulement ce passé, mais aussi le présent et l'avenir. Il y a un peu plus de 100 ans, naissait l'Université hébraïque de Jérusalem, projet intellectuel et politique d'une audace rare, conçu au cœur d'une période particulièrement sombre pour les Juifs de l'Europe. À la fin du XIXe siècle, à l'Est, l'Europe était secouée par des pogroms à répétition. À l'Ouest, l'affaire Dreyfus s'avéra être un révélateur particulièrement brutal. De cette tourmente émergea un réveil politique de grande ampleur, porté notamment par Théodore Herzl, qui organisa en 1897 le premier congrès sioniste à Bâle. C'est dans cette dynamique, entre urgence historique, espoir de reconstruction et affirmation d'un avenir collectif, que s'esquissa l'idée d'une université à Jérusalem. De la naissance presque épique sur le mont Scopus en 1925, face au désert de Judée, jusqu'à son établissement parmi les grandes universités mondiales, l'émission d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine se propose de faire une plongée dans l'histoire de cette institution née d'une crise, portée par une vision et devenue un symbole durable de savoir, de langue et de modernité. Notre guide aujourd'hui sera Dominique Bourrel, qui a consacré nombre de ses recherches à l'histoire de cette institution. Dominique Bourrel, bonjour.
Bonjour.
Dominique Bourrel, vous êtes directeur de recherche émérite du CNRS. Vous avez été directeur du Centre de recherche français de Jérusalem, professeur à l'Université Humboldt de Berlin, spécialiste du judaïsme allemand moderne et en particulier des figures de Moses Mendelssohn et Martin Buber, à qui vous avez consacré deux immenses biographies intellectuelles, remarquées et remarquables, respectivement Moses Mendelssohn, la naissance du judaïsme moderne, et Martin Buber, sentinelle de l'humanité, étudiant minutieusement et interrogeant les archives des grandes bibliothèques de Londres à Jérusalem et de Vienne à Stockholm, en passant par Berlin ou encore par Uppsala. C'est dire que vous êtes aussi un spécialiste et un amoureux du monde des archives, ce monde de papier et de poussière, d'encre et de fantômes, si on peut dire. Et c'est du monde des archives et d'autres lectures que l'image de l'Université hébraïque de Jérusalem a commencé à se construire avec une rare clarté dans votre esprit. Comment avez-vous travaillé, Dominique Bourrel ?
Alors merci de cette présentation aimable. C'est vrai que j'ai travaillé aussi à cause de Martin Buber et de ses auteurs juifs allemands ou juifs de la Mittelalter Europa. Petit à petit, cette université hébraïque avait une espèce de rôle magnétique. Vous savez que Kafka a appris l'hébreu parce qu'il voulait y aller, soi-disant. Einstein avait dit aussi que peut-être il allait venir. Freud en parle en disant « notre université ». Et Bergson, quand il a été invité à l'inauguration, était malade ou pas. C'était très très curieux dans ma tête, en disant qu'est-ce que c'est, bien avant que j'aille bien évidemment à Jérusalem. Et comme toujours dans ces institutions, on a des archives formidables, et vous l'avez rappelé gentiment, c'est vrai que je suis très lié aux acariens, je sais que j'aime beaucoup la poussière, et donc je suis tombé sur des choses absolument phénoménales, puisque une grande partie des gens qui ont monté cette université sont d'ailleurs des personnages de romans, et donc bien sûr tout ça a été soigneusement gardé, puisque ce sont pas tous des yékés, mais souvent des juifs de Mittelalter Europa, donc vous avez plutôt les archives en 3 exemplaires. Et si par hasard il y en a qui vous manquent, vous les retrouvez ailleurs. Donc je me suis retrouvé presque, pas malgré moi, parce que Buber a joué un très grand rôle dans la fondation de cette université, mais ça m'a paru très intéressant, et justement ayant moi-même été une sorte de pèlerin dans ces différentes universités d'Europe et des États-Unis, à ce moment-là, ça s'est inscrit, si je puis dire, comme une évidence.
L'idée d'ouvrir une institution universitaire juive en Palestine fut discutée pour la première fois lors du premier congrès sioniste en 1897, par la suite, un groupe de jeunes sionistes inspirés par Chaim Weizmann, alors professeur à l'Université de Genève, décida de faire de la création d'une université un objectif primordial du mouvement sioniste, qui était ce groupe de jeunes sionistes inspirés, Dominique Alors, Borel.
C'était justement des gens qui avaient été très frappés par une série de tentatives de créer une université juive. Ça sera la première, longtemps, la seule université juive au monde. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on trouve normales, mais c'était aussi quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et ils avaient lu un texte très impressionnant, dont on se demande toujours d'où il vient, que je cite toujours volontiers, bien évidemment, qui est celui de Rousseau, et qui écrit « Je ne croirai jamais avoir bien entendu les raisons des Juifs qu'il n'ait un État libre, des écoles, des universités, où ils puissent parler et disputer sans risque. Alors seulement, nous pourrons savoir ce qu'ils ont à dire. » C'est une citation absolument extraordinaire, surtout venue de Rousseau, qui est celui de la bande des quatre, si je puis dire, Voltaire, Montesquieu, Diderot et lui Rousseau, celui qui a le moins dû rencontrer de juifs dans sa vie et qui ne devait pas savoir beaucoup d'hébreu, contrairement à Diderot et contrairement au sarcastique Voltaire. Et donc ce texte-là est simplement un des rares qui ont dû parler à ces jeunes et qui ont dit effectivement, ce groupe-là, ont dû dire il faut qu'on fasse une université, on peut pas. Alors au début, elle s'appelle naturellement université juive. Le mot d'université commençait déjà à être problématique, d'abord parce qu'il y avait les gens qui avaient étudié à la yeshiva, donc dans les yeshivot, qui commençaient à se demander ce que c'était que cette histoire. Et les gens qui étaient en train de recréer un hébreu qu'on appelle l'hébreu moderne, utilisaient le terme de mirlala et pas le terme d'universita, puisque ça commençait déjà mal pour commencer à fonder une nouvelle langue avec des termes latins. Donc si vous voulez, ce groupe que vous avez mentionné, c'est vraiment les premiers à avoir cette idée, on va le faire de manière pratique, quoi. En 1902, d'abord ça commence effectivement par une nuit que je devine en fumée du 5e congrès de 1901, où on commence à discuter, ça se termine à 4h du matin, on a le verbatim, hein. Et c'est Buber et Weizmann, vous l'avez dit, qui sont aux manettes, et cette idée germe, et ils vont faire un petit livre qui s'appelle Une université juive, un livre de 30 pages que j'ai sous les yeux, et qui paraît en 1902.
Mais alors, qui sont ces inspirés, ces jeunes inspirés?
Alors, Buber est bien évidemment quelqu'un qui vient de la philosophie, qui s'est occupé de la tradition chassidique, qui est en même temps un traducteur de la Bible. C'est quelqu'un tout à fait extraordinaire et polyvalent, qui, comme vous savez, est mort très, très âgé, un personnage, effectivement, de roman. Weizmann, c'est un savant, c'est un scientifique pur et dur, c'est un chimiste. Ils ont pris un troisième, qui était un journaliste viennois, pour pouvoir écrire ça de manière élégante. Ils ont fait ce petit volume de 40 pages, et ils ont écrit dans toutes les universités pour avoir des suggestions, en disant « on va faire une université juive, alors qu'est-ce que vous en pensez ?» Et on a gardé les réponses où les gens disent « voilà ce qu'il faudrait faire ». Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait un numerus clausus épouvantable, pas seulement pour les étudiants, mais comme vous l'avez rappelé, on est en plein pogrom, même pour les professeurs, même les gens qui étaient des très bons professeurs, ne trouvaient pas d'enseignement.
Quel était l'objectif primordial de la création de cette université ? J'ai esquissé dans ma présentation, vous venez de le dire, l'horizon historique et politique de l'Europe en cette fin de 19e siècle, et je crois que tout cela a son importance pour comprendre ce projet.
Oui, bien sûr, parce que tous ces juifs qui enseignaient, quand ils arrivaient à avoir un poste, et il y en avait quand même beaucoup, à plusieurs niveaux de la hiérarchie, c'était pour un autre pays. Comme on l'a souvent dit, c'était pour la France, pour l'Allemagne, pour la Pologne, etc. Alors que là, ils se sont dit, mais c'est quand même dommage qu'ils ne puissent pas faire ça pour le peuple juif. Et en plus, Herzl, quand il a lu ces travaux-là, le premier était un mathématicien de Heidelberg qui s'appelait Shapira, qui a écrit dans Amelitz un ou deux articles. C'est des gens, c'était plutôt des savants, des scientifiques qui voulaient faire des mathématiques, de la chimie. D'ailleurs, le premier département, à part bien évidemment celui des études juives dont je suppose qu'on va parler, c'était la microbiologie et la chimie, puisque la microbiologie, c'était pour soigner la malaria et pour soigner les maladies, on dit aujourd'hui tropicales. En face de la MGEN, il y a l'Institut Pasteur, mais c'était pour ça que ça avait été fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'ailleurs, au début, ils ne voulaient pas tellement faire une université. Ils voulaient faire comme le CNRS. D'ailleurs, Weizmann, qui avait travaillé à l'Institut Pasteur, avait dit « Mais non, non, on va faire un institut de recherche. » Et les étudiants, ça viendra après, les thèses. Et Nordahau, par exemple, au début, il était très contre, en disant « Ça va encore être du prolétariat intellectuel et des gens qui n'auront pas de travail, c'est du bluff. On a besoin de tracteurs, etc. » Et puis, petit à petit, bien évidemment, il y a eu besoin, c'est venu après, comme vous savez, d'une fac de médecine, d'une fac de droit, et là, ils ont commencé par cet institut d'études juives, et puis les sciences humaines et sociales, et cette grande inauguration, avril 25.
Vous venez d'évoquer la question du numerus clausus dans les universités européennes, et je crois que c'est un point vraiment important à souligner. Oui, c'est-à-dire de se rendre compte à quel point les étudiants en Europe n'avaient pas la possibilité d'aller dans les universités de leur propre pays.
Bien sûr, on voyait souvent, on mettait des obstacles épouvantables. Il fallait faire les examens en latin, il fallait faire l'équivalent, aller jusqu'à la classe terminale, c'était absurde. Alors, il y en avait qui arrivaient à passer au travers de tout ça. Et justement, on dit, c'est quand même un peu dommage que ça soit pour une université allemande, une université polonaise. Il y a cette anecdote que je cite souvent avec plaisir, avec un prix Nobel qui s'appelait Ehrlich, que Weizmann vient voir pour essayer de recruter des étudiants, des profs, etc. Et Ehrlich lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Jérusalem? Et alors, à la fin, c'est déjà une heure de discussion, et Ehrlich lui dit, écoutez, vous savez, il y a 150 personnes dans le couloir, là, qui attendent des princes, des barons, des diplomates, qui doivent avoir leur injection, et je dois les soigner. Et Weizmann le regarde en lui disant, la seule différence, c'est que là, c'est moi qui vais vous injecter quelque chose pour vous. Et au début, il a été stupéfait, et après, il a fait partie du conseil des professeurs. Et Einstein, c'était aussi un peu la même chose.
Les historiens nous apprennent que Herzl fit une demande auprès du sultan de Turquie, puisque la Palestine de l'époque était sous mandat ottoman. Cette demande, semble-t-il, resta sans réponse, un silence qui peut être compréhensible, mais qui mérite commentaire. Quels avaient été les arguments de Herzl auprès du sultan?
Parce que Herzl, justement, a tout de suite pris ses articles de Hamelitz et a demandé à Shapira, qui donc a fait une présentation au premier congressionniste de cette université, à ce moment-là écrit au sultan en disant, ben, vous aussi, vous avez des problèmes de numerus clausus, alors là, vos étudiants et vos profs ne seront pas obligés d'aller dans toutes les universités du monde arabe, et bien évidemment, ils pourront venir travailler avec nous et partager cette université. Après, le problème des réponses à ces grandes initiationnistes est toujours un peu embêtant parce qu'on ne sait pas très bien où elles sont, on ne sait pas s'il y en a. Elles doivent être bien évidemment en arabe. Le jour de l'inauguration, il y a dans les archives beaucoup de télégrammes de félicitations en arabe. Donc, tant qu'on faut trouver quelqu'un qui les lise et qui les transcrive. Et maintenant, vous avez parlé de manière élégante des problèmes politiques et géopolitiques. Il y a des tas de gens qui ne veulent pas avoir l'air d'avoir collaboré. C'est-à-dire que l'idée qu'il y ait une lettre ou plusieurs lettres de sultans, d'imams, en disant formidable, où on va venir, on va faire les cours d'arabe ensemble, etc. C'est de la collaboration. On me l'a dit, mais encore aujourd'hui, quand je vais à la pêche aux manuscrits, je dis, mais vous avez dans la bibliothèque Khalidi et dans toutes ces bibliothèques-là, parce que c'est quand même des tragédies, quoi, la plupart du temps. Mais ce qui est vrai, c'est que comme les Anglais très vite ont voulu faire aussi une université, qu'on avait créé l'université du roi Fouad en 25, donc là, effectivement, on peut s'imaginer que les strates les plus culturelles et les intellectuels arabes ont regardé ça d'un assez bon œil. Au début, ils sont venus, d'ailleurs, pour la première inauguration, dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire de l'Institut d'études juives, mais comme Balfour est venu à la grande inauguration, alors là, bien évidemment, il y en a très peu. Vous savez, il y a 7000 personnes quand même. Hein. Mmh. Alors, faudrait quand même, on a ce tableau merveilleux, on a un peu les noms des gens qui étaient là, et ça, il faut quand même encore, on n'a pas du tout...
On
n'a pas tout déchiffré encore.
Mais ma question était pourquoi le sultan, là on est en 1902, oui. Refuse...
Je ne sais pas s'il a refusé. Je sais pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas la réponse. J'ai regardé encore dans la correspondance de Herzl. On a une nouvelle édition critique maintenant en allemand. Et il n'y a pas de réponse apparente, en tout cas. Hein. Mais Weizmann, comme vous savez, s'entendait très bien avec le sultan, avec les sphères culturelles musulmanes. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes à son niveau, en tout cas. Et alors, pour cette université, le problème s'est reposé immédiatement quand ils ont créé un institut d'études arabes en 26, donc il y a 100 ans exactement, par Sissi Parité de l'Institut d'études juives. Et là, le problème était, bien évidemment, on va nommer un arabe, un musulman en tout cas, quelqu'un dont ce qui est un native speaker, comme on dit aujourd'hui. Et malheureusement, on était déjà en 26, et après les événements de 29, ça n'a plus été possible. Ils ont fait des demandes, ils voulaient avoir un professeur de Damas, ils voulaient avoir Tahar Hussein, qui a fait sa thèse avec Massignon, qui était quelqu'un tout à fait extraordinaire. Et puis après, malheureusement, c'est l'histoire avec sa grande hache, comme on dit, qui rend après les choses impossibles.
Thank you.
fallu attendre 1917 que la région de la Palestine passe sous mandat britannique pour demander une nouvelle autorisation ici aux Anglais pour créer cette université. Herzl était déjà décédé, mais son esprit encore très présent. En 1918, l'Organisation sioniste mondiale reçut la permission des Britanniques de poser la première pierre de l'université. Ce fut le 24 juillet 1918. 12 pierres de fondation, symboliquement, comme les 12 tribus d'Israël, furent scellées par Chaim Weizmann sur le mont Scopus au nord-est de Jérusalem. Ce site avait été acquis avant la guerre par l'auteur et journaliste Isaac Goldberg, un site sur lequel, en ce 24 juillet 1918, retentit ce psaume 118 que nous venons d'entendre ici dans une version de Salomon Rossi, dont voici les paroles « Je te rends grâce pour m'avoir exaucé, tu as été mon sauveur, la pierre qu'ont dédaignée les architectes est devenue la plus précieuse des pierres d'angle ». Dominique Bourrel, le Mont Scopus est un site particulièrement exceptionnel d'un point de vue géographique et spirituel.
Oui, bien évidemment, il appartenait à un aristocrate anglais qu'il avait comme maison de campagne, si je puis dire. Et puis à un moment, il a voulu s'en dessaisir et c'était l'endroit où il y avait les armées de Titus. Et qui donc, pour beaucoup de juifs, en tout cas pour ceux qui avaient cette mémoire-là, c'était un endroit et il suffit encore aujourd'hui d'aller voir. C'est là où il y a les doctorats honoris causa, etc. Et c'est un lieu tout à fait
extraordinaire. Vous parlez d'amphithéâtre.
Oui, absolument, absolument.
Avec une vue extraordinaire sur les monts de Judée qui vont
on peut aller jusqu'à la mer Morte.
Jusqu'à la mer Morte, oui.
C'est absolument fascinant. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a eu un grand événement, il a eu lieu là, et la remise des doctorats d'ailleurs a lieu tous les étés là, donc c'est particulièrement impressionnant, et on peut quand même mettre 7000 personnes, quoi, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ils ont commencé d'ailleurs par une bibliothèque, et ils ont commencé par un institut. Comme Einstein est venu en Palestine en 1923, comme vous savez, parce qu'il faisait tout un grand tour en Europe. Et là, il a passé 15 jours. On a publié ses souvenirs maintenant. Il a visité les kibboutz, il a été dans tous les coins. C'était un passage très, très intéressant. Et là, bien évidemment, il est venu faire une conférence. Et ce qui fait plaisir à tout le monde, ou enfin à quelques-uns, c'est qu'il a maugré quelques mots d'hébreu qui devaient venir de sa bar mitzvah. Et après, il a fait sa conférence en français. Alors, naturellement, notre consul général a écrit immédiatement au département pour expliquer ça. Et où Shishkin, qui avait déjà un sens de la Hasbara, quand il l'a présenté... De la propagande, pardon, quand il lui a montré la chaire où il devait parler, la chaire, il dit « Professeur Einstein, approchez-vous de cette chaire, elle vous attend depuis 3000 ans. » C'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et généralement, quand j'ai ce bon mot qui est d'ailleurs connu, j'ajoute toujours celui du général commandant militaire qui s'appelait Ronald Storz et qui, lui, commençait ses discours en disant « Mon prédécesseur Ponce Pilate pensait que... » Donc, et c'est dire comment ces lieux sont effectivement quand même imprimés, qu'on le veuille ou non, d'une mémoire bien évidemment signifiante. On peut pas l'éliminer comme ça.
Comme tout Jérusalem.
Absolument.
Alors, l'université n'est pas encore créée, ni encore ouverte officiellement, puisqu'on est en 1918. Il faudra attendre 1925. En attendant, il faut ramasser des fonds, chercher des professeurs, intéresser des étudiants, créer des bibliothèques. Vous venez d'évoquer la bibliothèque. Et il faut penser à différents départements. En 1921, là vous avez parlé de 1923, mais en 1921, Albert Einstein, qui était vraiment enthousiasmé par la création de cette université, accompagna Weizmann aux États-Unis pour rallier le judaïsme américain à l'entreprise. Einstein, on le sait maintenant, et dans les archives, c'est vraiment très clair, joua un rôle prédominant dans la création de cette université, tout comme Freud, Dominique Bourrel.
Oui, vous avez tout à fait raison. Une des choses les plus originales dans la naissance de cette université, c'est que vous avez en réalité trois cultures. Vous avez mentionné justement l'Angleterre. Donc il y a celle dont on a parlé déjà de Mitteleuropa, d'Allemagne, etc. Il y a celle de l'Angleterre, parce que c'est quand même un mandat britannique. Ça jouera un rôle très important pour le patron du département de philo, qui s'appelle Leon Roth, qui est un Anglais et Américain. Et Américain grâce à Magnès, qui est une personnalité émergente tout à fait extraordinaire. Et c'est ces trois cultures qui sont ensemble et qui font aussi une des originalités de cette université. Et c'est vrai que cette période que vous mentionnez dans les archives est très riche parce que il fallait savoir ce qu'on allait enseigner, à qui on allait demander, si les gens devaient avoir une kippa sur la tête ou pas du tout, qu'est-ce qu'on allait faire avec les ex-juifs, j'allais dire, ou avec les convertis, et dans quelle langue on allait faire ça. Parce que comme vous vous savez, on sortait juste de la guerre des langues, puisqu'on avait créé avant une université technologique, qu'on appelait d'abord avant le Technicum, qui imitait Charlottenburg, Darmstadt et la Suisse, qu'on a appelé aujourd'hui Technion, et où au début, comme c'était les Allemands qui payaient, les cours devaient être en allemand. Et vous connaissez bien mieux que moi ces passages de Herzl, où il dit, écoutez, là l'hébreu ça va pas faire, là on va pas pouvoir faire des cours de médecine, d'ingénierie, etc. Donc tout ça arrive effectivement dans les années 20, et alors là c'est passionnant parce que vous avez des recommandations, on demande d'ailleurs à des professeurs français de l'école pratique des hautes études, du Collège de France. Weizmann avait une grande admiration pour le Collège de France, il y a d'ailleurs deux ou trois professeurs du Collège de France qui ont été invités, et donc c'est comme une marée montante avec des méchancetés les plus épouvantables bien évidemment, sur des gens qu'on considère aujourd'hui comme des géants de la science, qui sont traités vraiment de manière... Et puis les jeunes loups, dont notre gourou à tous Gershom Scholem, Ernst Akiba Simon, tous ces gens-là, ils ont 25 ans. Donc pour eux, si vous voulez, c'est des sionistes d'après Goethe, comme disait l'ami d'Anna Arendt. Donc si vous voulez, c'est là, vous voyez, il y a cette espèce de mélange entre cette science, j'allais dire, barbue, posée dans un hébreu encore souvent très synagogal. Et puis alors on change de nom, n'est-ce pas? Turcina, et c'est formidable, son vrai nom était Torchiner, il venait du coin de Lemberg, donc ça peut pas être un mauvais type. Et tout ça est en train de chauffer, de bouillir, c'est tout à fait extraordinaire.
Vous venez de l'évoquer, mais on va l'approfondir. Le nom de cette université est important, Université hébraïque de Jérusalem, et non pas Université juive. Pourquoi hébraïque? Et je me suis demandé, est-ce en relation avec le choix de la langue dans laquelle seraient donnés les enseignements? L'hébreu, ce qui n'était pas évident, vous venez de le dire, car ça aurait pu être l'allemand ou l'anglais par exemple. Et vous venez d'évoquer cette expression « guerre des langues ». Il y a eu véritablement une guerre des langues pour savoir dans quelle langue l'enseignement devait se passer.
Alors la guerre des langues, elle a surtout été incandescente avant la Première Guerre mondiale. Quand ils ont commencé à faire l'intitulé des chaires, Klausner qui s'est fâché parce qu'il y a quelqu'un qui a dit on va faire une chaire de yiddish. Et Klausner a dit vous êtes tombé sur la tête. On fait une université hébraïque à Jérusalem et on va enseigner le yiddish. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là l'histoire, ça on le sait bien, est d'un tragique épouvantable puisque ce département de yiddish a bien été créé après la Deuxième Guerre mondiale où il y avait, comme vous savez, 99% des locuteurs yiddish qui avait été assassiné. Mais ça, c'est aussi très intéressant, parce que quand vous dites on va faire de la philo, mais les gens disent vous allez faire quoi, Spinoza? Donc vous imaginez qu'il y en a quelques-uns qui disent, mais quand on fait en université à Jérusalem pour faire du Spinoza, on est où là? Donc ça, c'était tout à fait extraordinaire. Mais c'est comme ça dans les lettres. Hein, et d'ailleurs, Klausner dit, moi je m'en vais si c'est comme ça. Et dans les lettres de Scholem, c'est pareil. D'ailleurs, ils repassent sur leur langue maternelle quand c'est pour dire des méchancetés. N'est-ce pas? Vous voyez, comme dans son annotation du Zohar. Vous savez, il a un volume qu'on a interfolié de traduction du Zohar, notamment celle de Pauli. Et là, tout d'un coup, il passe à l'allemand. C'est un Wahnsinn, c'est complètement fou, c'est un mensonge, etc. Et donc, on voit dans ces discussions, c'est vraiment passionnant.
Alors, on vient d'évoquer l'hébreu comme langue d'enseignement. C'est un hébreu qui a évolué très vite, ce qui en soi est extraordinaire, car c'est devenu une langue nationale très rapidement, une langue vivante, très vivante, avec une littérature d'une grande richesse et intégrant très vite un ensemble de mots inventés ou ressuscités à partir de l'ancien hébreu, pour parler autant d'astronomie, de physique, de mathématiques que de philosophie et de botanique, Dominique Bourrel. L'évolution de l'hébreu est quelque chose qui est vraiment intéressant à suivre dans le cadre de cette université.
Absolument, surtout, ils ont créé tout de suite une académie de la langue hébraïque, et dirigée aujourd'hui par notre ami Baracher, où on reçoit encore aujourd'hui, tous les mois, une newsletter qui parle des nouveaux concepts et des nouveaux termes en anglais, et qui trouve une traduction en hébreu. La très regrettée Sophie Kessler-Mesguich s'occupait beaucoup de ça, parce qu'en disant comment ça naît une langue. Ça, c'est quand même un cas d'école absolument incroyable. Vous arrivez, puisque l'hébreu qui était parlé avant était un hébreu de responsat, un hébreu très synagogal, c'était... Et là, tout d'un coup, ils se sont pris, alors pour le coup, les gens qui passent leur temps à parler de la modernité, là vous l'apprenez, mais même pas en une génération. Parce qu'après, c'est les enfants qui se mettent à parler ça. Parce que ce que j'ai découvert, on le savait bien évidemment déjà avant, c'est qu'à partir très tôt, à partir de 1900, on commence à enseigner en hébreu dans les jardins d'enfants, dans les endroits de la Tibériade, il y a des endroits qui enseignent en hébreu, avec même des femmes qui écoutent, qui sont là, et donc tous ces gens-là, bien évidemment, ça va être les premiers clients, si je puis dire, de l'université hébraïque. Donc il y a tout un substrat, si vous voulez, qui vient, c'était aussi une des raisons de la création de l'université hébraïque, parce qu'on en fait quoi de ces gens-là? Et on s'est dit, après, on va en faire des médecins, des juristes. Et donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et alors, l'Académie de langue hébraïque est quelque chose de tout à fait fascinant quand on suit un peu ses travaux, ce qui m'est arrivé. Et alors, il y a des débats, bien évidemment, en disant, mais on peut pas traduire comme ça, on peut pas faire ça. Enfin, vous imaginez, c'est sans fin et c'est très, très, très intéressant. Alors après, vous savez, quand les gens parlaient une autre langue dans les rues de Jérusalem et qu'ils se rencontraient, les vieux professeurs se rencontraient entre eux, qui se mettaient à parler dans un hébreu hésitant. Et alors, ils commençaient à dire, écoute, on n'est pas des enfants, on va reprendre une langue normale. Et donc, ils reprenaient ou le yiddish, ou le français, ou l'allemand.
L'allemand ou l'hongrois. Absolument. Eliezer ben Yehuda, qui est vraiment le prophète de la renaissance de l'hébreu, quand on voit tout ce qui a été écrit sur cette université, on ne voit pas apparaître son nom.
Pourtant, il n'était pas très loin, comme Achabaham. C'était un protecteur, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en entrant, il a dit attention, attention, déjà le terme d'universita, c'est louche. Mais eux-mêmes devaient dire aussi, oui, mais Monsieur Ben Yehuda, comme vous savez, c'était pas son nom, Monsieur Ben Yehuda, on fait comment ? Donc, il fallait aussi avoir un peu d'indulgence. Ben Yehuda, on n'avait pas tout, forcément, il y avait l'histoire uniquement en hébreu, quoi. Rak Ivrit, il y avait des gens qui rentraient. Même Boubert, qui a parlé parfois, il enseignait aussi en hébreu, mais qui a parlé parfois dans des conférences en allemand, il y avait des gens qui rentraient dans sa conférence en disant, il faut parler en hébreu. Ce qui était quand même, je prends l'exemple de Boubert parce que c'est pas les jeunes loups, ces gens-là. Ils arrivent à 60 ans. Et souvent même à 70 ans. Alors, quand ils viennent d'un milieu rabbinique, ça va très bien. Mais cette université, elle est justement pas faite. C'était la hantise de Weizmann en disant on va pas faire un séminaire de rabbin, on en a déjà suffisamment. D'autant plus que là c'était le sang-bleu de la Wissenschaft des Judentums. Hein. Les gens ils venaient de la Hochschule, du Rabbinerseminar et des Hongrois et de Vienne. Je veux dire, c'était vraiment là de la science, hein, comme on l'a d'ailleurs presque plus revu à mon avis aujourd'hui. Les gens aiment pas dire ça parce que ça fait un peu nostalgie, mais quand on voit les curriculum vitae de ces gens-là, quand on voit leurs livres qu'ils ont fait, sans photocopieux, sans smartphone, sans. Donc c'est quand même absolument extraordinaire.
Vous avez cité tout à l'heure Shmuel Hugo Bergman. Je pense que c'est important parce que à la fois lui-même a une œuvre essentielle, mais il était sur le même banc que Kafka à Prague. Absolument. Parlez-nous de Shmuel Hugo Bergman.
Alors Hugo Bergman, c'est effectivement un personnage tout à fait extraordinaire et c'est de la chance pour nous. Alors c'est pas gentil pour moi de dire ça, c'est un peu des graphomanes, hein, tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a intérêt à être au CNRS ou avoir des longues vacances pour lire ces gens-là, parce que forcément ça écrit beaucoup. Bergman est donc un philosophe et quelqu'un qui va être l'âme de tout ce qui était d'enseignement supérieur dans le monde sioniste. Et il venait donc, comme vous l'avez dit, de Prague. C'est lui qui a fondé avec Léon Roth le département de philosophie de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est née donc au moment où on a créé le département de sciences humaines, donc un peu après le navire amiral qui était la science juive, où la philosophie juive d'ailleurs avait commencé dans cet institut d'études juives. Et alors Bergman est quelqu'un qui très vite a passé une grande partie de son temps à traduire des textes. Il a traduit les trois critiques de Kant avec Nathan Rothenstreich, et il a traduit un nombre incalculable de textes, souvent assez difficiles à traduire, et surtout c'était aussi quelqu'un qui s'occupait de la philosophie des autres, si je puis dire. M'a toujours parce qu'il avait un portrait de Simone Veil sur son bureau. Et les gens se sont toujours demandé, parce que Simone Veil, on est quand même quelques-uns...
Veil, la philosophe.
Absolument, la philosophe. Et donc, vous voyez, il était très ouvert à tout ça, et surtout, pas tellement vers la fin de sa vie, mais aussi aux philosophies orientales. C'est des gens, ils correspondaient avec des sages, et il était tout à fait en faveur de l'enseignement de ces disciplines-là à l'université hébraïque. Alors, il a été professeur, recteur, doyen, tout ce qu'on veut, et on lui avait proposé de rester, bien évidemment, à Prague, mais il fallait qu'il se convertisse. On a une lettre extraordinaire de Marty, qui était un de ses patrons, et qui lui dit, écoutez, tout le monde vous attend, il n'y a aucun problème, ce qui est réglé, c'est avant qu'il parte à Londres. Donc, il était là, tout est réglé, on est d'accord. La seule chose qu'il faudrait, ce serait quand même un petit coup de... Comme je viens d'un monde catholique, je peux le faire de manière souriante, un petit coup de jet d'eau, quoi. Il faudrait une petite source.
Ce qu'il n'a pas fait, donc il s'est retrouvé en Israël. Ouais. Et quels sont ses liens avec Kafka une fois qu'il est arrivé
C'est lui qui a envoyé, par exemple, la professeure Pua Bentovim, c'était une élève de Bergman, qui lui a dit, vous allez aller là-bas, parce qu'il faut absolument que vous appreniez à Kafka. Essayez de trouver parmi vos auditeurs des gens qui ont une bonne plume pour nous faire Kafka, Benjamin et d'autres à Jérusalem. On fait comment là? On les met où? On les met à Ben Yehuda? On les met à parler avec les gens?
Shmuel Hugo Bergman va créer la bibliothèque. au-delà des traductions que vous venez d'évoquer.
Voilà, alors la bibliothèque a joué un rôle très important. C'est d'ailleurs un des premiers buildings qui est construit. Il va y avoir un appel, comme pour les professeurs d'ailleurs. Les livres vont arriver de toute la terre, mais c'est vraiment comme ça. Y compris même par les diplomates. On a une des belles lettres des Allemands, des Français, en disant on va vous donner telle collection. Et c'était une bibliothèque qui s'appelait la bibliothèque Abrabanel, qui était une petite bibliothèque près de Mea Shearim, là, à Jérusalem. Et très tôt, ça va devenir une des plus grandes bibliothèques d'études juives, et même avant la fondation de l'État, il y aura à peu près, puisque c'était devenu naturellement presque un must, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un livre publié dans le monde entier sur quelque chose du judaïsme, on espérait avoir, avant que ça soit légal, avant que ça soit la loi, on espérait avoir un exemplaire à Jérusalem. Donc très tôt, cette bibliothèque a été une richesse absolument extraordinaire.
On a l'impression, en vous écoutant, de voir cette image de livres comme des oiseaux qui viennent du monde entier et qui arrivent et qui se posent dans cette bibliothèque. Alors si ça vous dérange pas, Dominique Bourrel, je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour évoquer l'ouverture de cette université le 1er avril 1925, parce que aujourd'hui nous avons évoqué à la fois le projet, le programme, la recherche, la mise en place, et puis on va voir la suite de son histoire jusqu'à nos jours. Merci Dominique Bourrel pour cette première partie de la découverte de l'Université hébraïque de Jérusalem. Je rappelle le titre de vos ouvrages principaux, Moses Mendelssohn, La naissance du judaïsme moderne, chez Gallimard en 2004, et Martin Buber, Sentinelle de l'humanité, chez Albin Michel en 2015, et du dernier ouvrage qui vient de sortir, L'abécédaire de Moïse Mendelssohn, aux éditions de l'Observatoire. Tout cela, un vrai régal pour l'esprit. Merci encore Dominique Bourrel.
Merci Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Ange Auduc et Alexandre Dang, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.